Nous sommes en mars 2014 et vous écoutez un dossier Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de l'actualité du jeu de société. Et merci à Philibert de nous aider à réaliser ce podcast. Salut les joueurs, salut les joueuses, salut Stéphane, salut Fan Noël.
Salut.
Salut Jérémy.
Alors.
Salut Jérémy, salut joueurs.
Ce soir, on vous parle du festival des jeux de Cannes. On vous fait un débrief un peu particulier puisqu'on le fait avec Skype, donc avec les moyens du bord. Donc on espère que la qualité son sera au rendez-vous et que l'interactivité entre nous trois, du coup à trois endroits différents, va marcher. Je vais laisser Fendel commencer à nous faire un petit peu le débrief du festival dans l'ensemble. Après, on reviendra sur les jeux qu'on a pu tester sur le salon et puis on parlera un petit peu du off également sur lequel on a fait un petit passage.
Donc le festival international du jeu de Cannes 2014, c'est donc 150 000 entrées cette année officiellement. Alors c'est un petit peu en baisse par rapport à l'année dernière, a priori à cause du soleil. Toujours aussi familial, donc il fallait évidemment y aller en famille. Beaucoup moins de monde le matin, donc et le soir après 19h. De plus en plus de jeux courts, simples, en démo. Jérémy, tu avais une remarque?
Pour moi, oui, c'est que en fait, c'est le marché du jeu qui se tourne vers le grand public et qui cherche de plus en plus des jeux effectivement courts, etc. C'est vrai que cette année, moi, je vais pas tester de gros jeux spécialement. Il y en avait quelques-uns, mais l'essentiel, c'était du jeu court. Hein.
On va pas chasser les core gamers. Il y avait quand même des tables de gros jeux. Il y en avait pas 50 000, mais il y en avait pas.
Voilà. Mal. Et moi, étant en famille, j'y suis pas allé, quoi. C'est pas Essonne.
Absolument. Alors, il y avait aussi comme particularité une couverture médiatique nationale, puisqu'on avait France 2 avec une émission de télématin un petit peu rapide, mais sur le sujet, le off qui avait à nouveau un espace prototype, il y avait Catala, Fraga, il y avait pas mal d'auteurs connus. J'ai tourné une vidéo du off, je la mettrai en ligne et on aura quelque chose d'assez assez sympathique pour vous rendre l'ambiance vraiment de l'immense salle dans laquelle se passait le off. Le milieu est toujours aussi sympa et abordable, mais très petit, tout le monde finit par se connaître. Donc ensuite ça ouvre une question par rapport à tout ce qui est la critique. Si le milieu est très très restreint, quelle est la place pour la critique? Difficulté pour les jeunes éditeurs à percer sans moyens. Donc il y a des gros stands rodés qui sont très exposés sur la partie centrale. Et puis au final on a peut-être des petits stands un petit peu sur les extérieurs. Peut-être certains quand même qui arrivent à bien se mettre en valeur, souvent avec un design assez particulier.
Avec Proxy Jeux, il y en aura toujours.
C'est quoi des PLV ? Et ensuite, on avait une particularité, Spielmaterial qui se
les grandes affiches là,
se déplace
ouais, en sorte de bâche.
Également, je sais qu'ils étaient là, je crois, l'année dernière. Et Spielmaterial, c'est une première.
Spielmaterial, c'est une première. Et alors, d'habitude, on les voit que sur le salon Essen. Donc, pour moi, s'ils sont venus là, alors il faut savoir que, étant client chez eux, ils envoient des fois un mail en début d'été pour dire on passera nos vacances en France, donc on peut vous livrer expédier des commandes depuis la France. Donc, je sais qu'ils connaissent bien la France, mais c'est la première fois qu'ils viennent à Cannes, ce qui veut dire qu'ils venaient tester un peu le marché, je pense, de Cannes. Et l'air de rien, sur leur stand, moi, quand j'y suis passé, c'était toujours plein à craquer. Même si je pense que le public n'est pas le même qu'à Essen, et que les gens n'ont peut-être pas acheté autant que ça.
Mais c'est vrai qu'à l'honneur, il y avait aussi, par rapport à ce que vous disiez, il y avait aussi les grosses animations, comme esquissées, concepts, etc., avec un animateur, avec un micro, qui faisait participer la foule pour des jeux vraiment à la cantonade, qui était extrêmement sympathique et qui
faisait c'était un truc de fou. Hein. L'année dernière, on avait joué avec le matériel du jeu normal, assis sur des, enfin à genoux sur des coussins, tout simplement vers l'allée centrale, mais c'était tout. Alors que cette année, ils avaient carrément un animateur avec le micro au centre des 8 participants, qui avaient tous une tablette pour dessiner, etc. Enfin, il y avait une animation incroyable. Il faisait un bruit, par contre. Je plains les gens qui étaient sur les stands d'à côté, mais.
Mais ils ont raison, il est excellent.
Ouais, non, mais exactement. Et il y avait toujours du coup plein de monde qui regardait, etc. C'était sympa. J'ai fait une photo. Alors, on mettra sur le billet de ce débrief. Un petit album photo parce qu'on a fait tous des photos du salon, on mettra de certains des clichés, donc il y en a une où j'ai pris en photo par au-dessus où on voit le gars avec son micro qui fait l'animation.
Ça se professionnalise pas mal au niveau de l'animation, je trouve qu'effectivement c'est plus rodé, enfin, on sort de l'amateurisme une fois de plus. Des gens comme Yellow tout ça commencent à avoir des stands plus rodés, ça se voit quoi, avec des équipes d'animateurs, etc.
Ouais, mais là c'est Goliath, donc c'est déjà un pot un peu plus gros, effectivement ils pouvaient mettre les moyens et c'est ce qu'ils visent. Ouais,
pas le choix. Même on voit bien, on parlait de Superlude, la difficulté effectivement pour les petits éditeurs. Bon, Superlude, c'est un petit éditeur, on a eu la chance d'avoir une interview. Et pourquoi il a bien marché? Parce qu'ils avaient une équipe d'animateurs, ils avaient l'auteur, ils se sont fendus de faire des animations, des dédicaces, d'avoir des tables, une signalétique parfaite, on savait exactement quels étaient les jeux présentés. Et du coup, ça a marché. Voilà, donc ils se sont donné les moyens et leur stand était loin d'être petit et était très bien placé.
Ah ouais, ouais. Bah, de toute façon il n'y a pas le choix. Hein.
Tu voulais rajouter également quelque chose par rapport au Mahjong ?
Oui, il n'y a pas que le jeu de société tel qu'on le connaît, nous. On a aussi, y a un espace souvent qu'on délaisse, c'est tout ce qui est association de bridge, de Mahjong. Et le matin, on s'est fait expliquer en fait le Mahjong qu'un copain a. Puis en fait, les règles du Mahjong, on s'est laissé expliquer bien, correctement. Et en fait, avec toutes les allusions, la culture chinoise qu'il y a derrière, c'était très sympathique également. Comme quoi, on a toujours quelque chose à découvrir, même quand on croit qu'on connaît déjà.
Ouais, c'est vrai qu'on parle du salon de Cannes, notre vision à nous, jeu de société moderne, mais il faut savoir que sur les 150 000 visiteurs, enfin 150 000 entrées qu'il y a eu sur le salon, il y a beaucoup sur les tournois de bridge, de tarot, de Scrabble et de choses comme ça qui se passent derrière. Et là, c'est des centaines de personnes qui viennent participer à ces concours. Là, je sais, Stéphane, toi, tu parles des quelques tables des jeux, je sais plus comment on dit.
Jeux classiques.
Voilà. Mais en plus, il y a tous ces tournois, etc., qui ont lieu sur les étages et c'est impressionnant. C'est vraiment le Festival de Cannes. Il y a autant des jeunes que des retraités qui viennent taper le carton.
Ah oui, il faut oser monter au premier, voir un peu les tournois de bridge et de Scrabble. C'est impressionnant.
Ou de loterie même, espèce de loterie à un moment. Ça aussi, c'était une salle blindée, quoi.
Ouais, le samedi soir, ils ont fait un loto. Ils avaient 920 participants. Un truc de taré, c'était pour une association. J'ai fait une photo. C'est impressionnant. Il y a des gens partout, quoi. Ok, donc on va enchaîner sur les jeux qui sont édités ou qui vont bientôt arriver en boutique et auxquels on a pu jouer, qu'on a pu tester. Alors. Petite précision quand même avant de les énumérer, je rappelle que quand on joue sur un salon pour découvrir des jeux, on les découvre pas toujours sous leur meilleur angle parce que d'abord il y a du bruit, on est un peu fatigué, on n'est pas toujours super attentif à la règle, des fois la règle peut nous être mal expliquée, là je pense que c'est pas le cas parce que c'est des jeux quand même au format assez simple, mais on joue aussi des fois avec des gens qu'on ne connaît pas bien et donc du coup on va pas jouer de la même manière, donc faut toujours, on aime bien débriefer à chaud comme ça de ce qu'on a testé, mais il faudra le prendre avec quelques réserves éventuellement. Donc on commence par Stéphane, tu avais testé Fun Farm de chez Yellow.
Ouais, je me suis assis avec un ami à une table de Fun Farm attiré par les petits animaux en plastique. Alors c'est vrai que c'est un jeu qui attire vraiment les enfants parce qu'il y a des énormes boules, un peu comme imaginez un peu un gros canard en plastique qui aurait bouffé un peu trop. Et donc il y a des vaches, il y a des animaux de la ferme comme ça. Et c'est un simple jeu de rapidité, on lance des dés et si les dés apparaissent sur les cartes qui ont été tirées, il faut s'emparer de l'animal. Alors, on a joué entre adultes, c'était assez amusant. Et en fait, on s'est vraiment... on était à fond dedans, quoi. Donc, on s'est bien amusé. Le jeu n'a rien d'extraordinaire dans les mécanismes. C'est assez sympa parce qu'en fait, pour un enfant, il n'y a pas qu'une seule solution. Il y a des moments où on tire des cartes, on les accumule s'il n'y a pas de lancer de dés qui correspondent à l'animal à prendre. Ce qui fait qu'à un moment donné, on peut très bien avoir trois animaux à prendre. Ce qui fait que l'enfant qui pourrait être un petit peu moins lent, ou si il n'y a pas de problème de « Ah, tu m'as pris ce que je voulais prendre », et il y a effectivement possibilité que chacun avoir un animal et d'avoir gagné quand même chacun une carte. Donc c'est sympa, c'est bien fait, c'est bien édité. Rien de révolutionnaire évidemment pour des gens habitués, mais c'était joli, quoi. C'est sympa.
Ouais, mes enfants ont testé, effectivement, ils ont bien aimé aussi. De la même manière, ce côté rapidité. On a laissé les enfants jouer entre eux et s'auto-gérer, ce qui n'était pas simple. On enchaîne Fendwell avec un jeu que tu as testé ?
Oui. Donc, moi, j'ai testé Unita. Donc, Unita, c'est un jeu, on va dire, plutôt catégorie moyen-lourd. C'est un jeu d'affrontement, en fait. Alors, c'est assez particulier. Alors, je connais pas. Pour moi, la mécanique est originale. Tu m'arrêteras, Jérémy, si... si tu connaissais un jeu
non, c'est original.
À peu près avec le même genre de mécanique, c'est une espèce de wargame en fait, où on va avoir différentes armées. Alors les armées sont présentées par des packs de 4 dés avec différentes valeurs à leur sommet, et le but du jeu va être d'amener ces armées en suivant un chemin qui est en spirale vers une zone centrale où en fait ils vont directement être aspirés et comptabilisés au niveau des points. Donc ça, c'est l'idée globale. Et durant tout ce déplacement de ces armées qu'on va faire successivement, on va croiser justement dans la spirale d'autres armées côte à côte avec nos packs d'armées. Et on va les affronter, et le perdant de chaque affrontement va avoir la valeur de ses dés qui va baisser. Et donc à la fin, le score final, c'est la valeur des dés qu'on a réussi à amener jusqu'au centre de la spirale. Alors c'est un petit peu confus comme explication, mais ça avait l'air en tout cas très très sympathique à retester quand même, parce que avec Jérémy on l'avait testé en variante, on va dire enfant, donc c'était un petit peu redondant vers la fin. Et effectivement, ce que nous expliquait l'éditeur, c'était qu'il y avait des, on va dire, une version adulte, une version normale du jeu qui apportait pas mal de challenges éventuellement. Donc ça semblait un jeu à suivre. Alors a priori il serait édité, si j'ai bien compris, d'ici un mois, en avril-mai probablement, plutôt en mai je crois.
Voilà, c'est chez Helvetia Games. C'est vrai que en fait c'est un jeu abstrait qui est bien, qui avait besoin et qui a été très bien thématisé, ça faut quand même le dire. Et les dés, c'est vrai qu'on joue avec des dés, mais on les lance jamais. En fait, les dés c'est juste pour avoir une valeur faciale et c'est tout. Ils sont utilisés que comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est la partie interaction qu'il y a, parce qu'en fait, là, comme on avance sur une spirale, on est toujours en confrontation avec deux adversaires.
Au contact.
Donc il va y avoir cet aspect-là à gérer. C'est ça le qui est le côté fun. Après, ce que j'ai trouvé moi, c'est vrai que la partie dure une heure et qu'en fait c'est presque un quart d'heure de trop sur la fin. Il aurait fallu écourter la partie, mais effectivement on a joué avec la règle simplifiée parce que je me suis dit pour une première partie ça suffisait sans doute pour voir le niveau du jeu, et en fait on a peut-être dû dès le départ demander la règle complète. Mais on en reparlera plus tard à la sortie du jeu. J'enchaîne de mon côté avec un jeu qu'on a testé, c'était avec Fendwell aussi, c'était Shinobi, aussi chez Yellow, là, un jeu de Théo Rivière.
Très sympa.
Qui est un jeu de cartes où il faut on a les cartes en main. Alors ça représente des clans qui vont s'affronter. Chaque clan a des pouvoirs spéciaux, et à son tour quand on va jouer les cartes, et si on les joue par deux ou par trois, on va appliquer un effet spécial qui peut être donc en général qui est une attaque sur les adversaires. Le but du jeu c'est d'être la partie s'arrête en tout cas quand un joueur a posé quatre clans sur le plateau, et ensuite on marque des points en fonction de la valeur des cartes, en sachant qu'évidemment les cartes qui ont des pouvoirs puissants ont des valeurs faibles. Voilà, il faut rajouter d'autres cartes qui ont des petits effets supplémentaires qui donnent des petits bonus, mais je vais pas revenir dessus. Ça c'est la version de base, et après on peut passer dans un mode qui joue en trois manches qui va être un petit peu plus intéressant, avec une phase de mise à la fin pour battre un boss. Et ce qui, à mon avis, pour des joueurs qui vont venir souvent à ce jeu, parce que c'est un jeu qu'on peut facilement ressortir, c'est un mode qui est vraiment appréciable et qui va vraiment, je pense, venir compléter les manches qui sont juste sinon je pioche des cartes et je joue.
Je le trouve assez proche de Corio. Je ne sais pas si tu as joué à Corio.
Oui, bien sûr.
Et effectivement, on lui trouve vraiment une filiation. Mais je trouve vraiment le fait d'avoir une espèce de mode campagne avec un boss à affronter à la fin vraiment sympa et à mon avis à tester vraiment.
Ouais, je pense que j'achèterai le jeu et je reviendrai dessus plus en détail, parce que Corio il a un avantage, c'est qu'on gère des majorités en plus alors qu'on les a pas dans Shinobi. Mais par contre dans Shinobi j'aime beaucoup le fait que quand j'ai pas beaucoup de cartes en main je vais me corrompre, c'est à dire que je vais pouvoir piocher plus de cartes, je vais pouvoir piocher beaucoup de cartes, mais par contre ce sera des points de victoire en moins à la fin de la manche. Ça c'est une bonne idée, je trouve, qui permet un petit peu de se relancer dans la partie quand des fois on s'est un petit peu enlisé et qu'on n'a plus une belle main. Stéphane ?
Oui, on a joué ensemble, Jérémy et moi, à Pina Pirata.
Oh là, j'y ai joué à celui-là aussi. De... Oh mon dieu.
Ouais. L'auteur de Dominion, Donald X. Vaccarino. Et bah, une édition un peu bizarre, parce qu'en fait, on a joué avec les enfants de Jérémy, et deux adultes, trois adultes même. Et en fait, on avait des problèmes d'interprétation déjà des dessins sur les cartes. Donc, ils sont censés représenter des animaux d'une bande de pirates. Et puis, c'est qu'un jeu de défausse après. Et en fait, Donald Vaccarino a juste mis ce qui faisait un peu le sel de Kingdom Builder, c'est-à-dire des règles qu'on tire en début de partie. Bah, là, c'est la même chose. C'est des petits bonus, des règles de défausse qui vont s'ajouter aux règles de base en cours de partie, ce coup-ci, sur des petits cartons. Alors, déjà, on a trouvé que les petits cartons n'étaient pas très faciles à lire, malheureusement. Et pourtant, on n'est pas tout vieux encore. Enfin, mais puis après, avec les enfants, on avait beaucoup de problèmes d'identification des animaux. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Jérémy.
Ouais, c'est ça. En fait, les graphismes sont presque trop fouillés. Et donc, du coup, quand on dit que quand on joue une carte singe, elle applique un effet, bah, et on y regarde à plusieurs fois pour savoir si c'est vraiment un singe. Quoi.
Ah, mais complètement.
Ouais, voilà.
Moi aussi, j'ai joué après. Et sincèrement, j'ai exactement la même analyse. Pour moi, c'est la déception du salon, quoi. C'est vraiment le jeu est vraiment difficile à lire. Alors peut-être qu'avec l'habitude et au bout d'une vingtaine de parties, on y arrivera. Mais sincèrement, c'est vraiment la déception du salon pour moi.
Par contre, le jeu semblait plaire aux familles.
Ouais, pour un jeu familial, c'est dommage qu'il soit aussi dur à lire, quoi, parce que bon. Mais bon, c'est dommage. Mais sinon,
les
très
illustrations
beau,
hein. sont belles. Voilà, c'est ça qui est terrible, quoi. Les illustrations sont belles, mais on a du mal à discerner qu'est-ce qu'est un singe et qu'est-ce qu'est une panthère. Et au niveau du choix des couleurs, parce qu'ils ont choisi certaines couleurs en haut à gauche de mettre un petit symbole du choix des couleurs. Je suis désolé, mais le noir, le bleu foncé et le violet foncé, enfin voilà, c'est pas forcément un très bon choix, à mon avis.
Ouais, le jeu est beau mais pas lisible effectivement. Mais bon, il paraît que les familles aimaient bien les jeux. Enfin, je pense que des gens qui jouent au Uno, voilà, ils jouaient à ça. Alors si c'est public visé, ben ils ont réussi. Si par contre ils espéraient s'étendre un petit peu à des publics un peu plus aguerris, malheureusement, je pense que c'est raté.
Ok, c'était Pinaperata chez Yellow.
Ouais. Fenduel, tu
veux. On enchaîne avec Perlin Pimpin chez Cocktail.
Ah bah vas-y si tu veux, ouais, vas-y. T'auras plus rien à dire après.
Bon bah vas-y, Fenduel alors.
Donc moi je propose de parler de Deal, je crois qu'on y a tout joué, Deal Gentleman Collectionneur.
Ouais.
Alors il y avait deux jeux qui s'appelaient Deal sur le salon, donc personnellement j'ai testé que celui-là. C'est un petit jeu, alors c'est assez étonnant, c'est un jeu de négociation avec deux ou trois joueurs. Donc déjà première particularité, ambiance justement un petit peu Indiana Jones moi je trouve. En fait, on joue des espèces de milliardaires qui vont se partager un butin, des caisses de butin à la descente du bateau. Et on va chacun en fait donner derrière un paravent une valeur à chacune à chacun des différents types d'objets qui vont descendre du bateau. Et en fait, le but du jeu, ça va vraiment être d'essayer de discerner qu'est-ce qui plaît à l'autre et qu'est-ce qui ne lui plaît pas, et évidemment qu'il essaie de ne pas savoir ce qui nous plaît ou ce qui nous plaît pas. Et pour essayer de lui refourguer des mauvaises cartes, pour nous d'avoir des bonnes cartes, et de plus, alors le truc, la touche en plus, c'est vraiment des espèces de règles supplémentaires, alors vraiment comme pour Piña Pirata au final, on va avoir des règles supplémentaires qui vont s'appliquer à la partie et qui permettent de rendre les parties un petit peu différentes. Par exemple, bah, à la fin de notre partie, on faisait passer trois cartes qu'on avait réussi à avoir à notre voisin pour on faisait attention à ce que notre voisin justement ne voulait pas prendre pour essayer de lui donner exactement les cartes qui étaient les plus pourries pour lui possible. Voilà, il y avait d'autres variantes, et en fait deux variantes étaient appliquées à la partie. Je sais pas si vous avez si vous avez un avis sur le jeu.
Bah, il faudra peut-être préciser juste ce qui fait le sel du jeu, c'est en fait il y en a un qui retourne deux cartes face visible, une carte face cachée, donc à chaque fois on a un choix de trois cartes, mais c'est un lot et on se partage ce lot ou pas. Et en fait le troisième joueur, plutôt que de s'embêter pendant que les deux autres négocient, a le droit de lancer un compte à rebours 10, 9, 8 jusqu'à 1, ce qui force les autres à négocier très vite ou pas, et s'ils échouent dans leur négociation, les cartes partent au musée.
Donc ça c'est à trois joueurs. À deux joueurs en fait il n'y a pas ce décompte, et simplement si les joueurs n'arrivent pas à se mettre d'accord, bah, les cartes partent au musée. Si l'un des deux dit elles partent au musée, bah, ça part au musée, et justement, bah, si je me rends compte qu'il y a un lot qui est très très intéressant pour l'autre joueur, bah, je peux parfaitement dire tout de suite, allez hop, ces cartes partent au musée. Bref, c'est assez sympa, ça sort chez... je sais pas si Jérémy, t'as quelque chose à ajouter.
j'ai joué qu'à 3 forcément, mais je pense que c'est à 3 que c'est le plus drôle, c'est le plus intéressant, parce que l'interaction avec le troisième joueur fait que ça va pas partir au musée comme ça. Le troisième joueur va au moins récupérer une carte, donc ça va rajouter une autre dimension encore. Mais en plus, les parties, on l'a pas dit, mais ça dure quoi, 5-10 minutes. C'est vraiment très rapide. Et on pouvait, il n'était pas encore édité, on pouvait le précommander.
Pour 15 euros. On peut le faire sur le site internet des éditions La Donzelle. Oui, ça doit être. C'est 16 euros, je crois, sur les éditions La Donzelle. Frais de port inclus.
15 euros prix salon, et donc là, 16 euros maintenant en ligne. Sur
ouais, site des port inclus quand même.
Port inclus, ce qui est vraiment pas cher, oui.
Et voilà, j'ai pu interviewer l'auteur donc, dans un billet qui est trouvable sur le site de Proxy Jeux.
Voilà, je remettrai tout dans la note, dans le billet de ce débrief de toute façon. Je remettrai le lien pour la précommande s'il y en a qui veulent précommander, et puis le lien vers l'interview.
Et pour être tout à fait complet, on a joué quand même un prototype très avancé, mais ce n'était pas encore la version éditée, commercialisée. Il y avait encore des...
Oui, il avait l'air de dire que les e-graphies seraient même très loin de... Enfin, encore mieux que ce qu'il y avait déjà sur le proto, qui était déjà très agréable, moi, je trouvais. Mais
bon. Et lisible, surtout.
Ouais, c'est ça, il était lisible, ouais.
Un autre jeu, La Nuit du Grand Poulpe.
Allez, on y a tous joué, je pense.
La Nuit du Grand Poulpe.
Voilà, Stéphane le fait très bien. Donc, La Nuit du Grand Poulpe, vous incarnez un cultiste qui veut invoquer son grand poulpe à lui. Et pour invoquer son grand poulpe à lui, donc il lui manque 4 ingrédients. Et il doit récupérer ces 4 ingrédients avant les autres pour invoquer son grand poulpe. Alors, il a une sorte de mini poulpe à lui qui lui sert d'espèce de chien de garde et qui va empêcher les autres cultistes de récupérer les bons ingrédients. Et lui, pendant ce temps-là, bah, il faut qu'il soit malin et qu'il aille se placer dans différents endroits sans qu'il y ait de mini poulpe, on va dire, des autres cultistes au même endroit. C'est un petit peu compliqué, mais simplement, en gros, c'est un jeu de programmation. On va programmer un déplacement pour son propre cultiste et également le mini poulpe qu'on a avec soi. Est-ce que j'ai bien résumé ?
Oui. Bah, en fait, ça se joue avec un cadran, un double cadran. Il y a deux aiguilles. Une aiguille pour déplacer dans une salle son cultiste et une autre aiguille en forme de tentacule où on va déplacer dans une autre salle son monstre, effectivement. Moi, je l'appelais Poulpi, en fait, mon petit monstre. Et pour être complet, le plateau est constitué de 5 salles. Et il y en a une qui est un petit peu déconnectée des autres et qui a moins d'accès. Donc, on peut quand même savoir un petit peu si tu es dans une salle. Tu n'as pas le droit d'aller dans une salle complètement à l'opposé. Il faut quand même qu'elle soit relié par un escalier, donc il y a un petit peu de... Tu peux savoir où les autres veulent aller à partir de leur place. Et puis, tu as une salle spéciale qui peut changer à chaque partie. Il a prévu, je crois, 4 salles...
4 salles, oui, tout à fait.
Hein, ouais, 4 salles.
Qu'on peut changer, qui sont des petits disques recto-verso, avec des règles particulières qui sont plus ou moins méchantes. Et nous, on a joué notre partie avec la plus gentille, et malgré ça, on a réussi à tous finir quasiment morts ou à un point de vie, tellement on s'est pourri. Tellement c'est pourri les uns les autres. C'était une partie incroyable.
Ouais, on n'a pas dit, mais au final, effectivement, c'est assez violent. On peut se poignarder. Chaque cultiste a des points de vie, et donc on va en perdre dès qu'on rencontre un autre petit poulpi des autres. Et également, on peut se poignarder entre nous dès qu'on se retrouve à plusieurs dans la même salle. Donc ça donne des parties assez marrantes.
Il y a aussi une part de négociation, puisque effectivement, quand on est à égalité sur la même salle, il faut décider est-ce qu'on s'affronte et tout le monde perd des points de vie, ou est-ce qu'il y en a un qui a le droit de prendre et pas l'autre. Enfin bon, c'est assez marrant d'ailleurs, on peut se faire des promesses, etc. Il y a une petite dimension très sympa à ce niveau-là, plus le bluff en cours de programmation, puisque moi j'ai essayé de négocier avec les autres quand on voyait qu'on perd des points de vie à chaque fois. À un moment donné, j'ai dit bon, attendez, on est bête, on est 5 joueurs, il y a 6 emplacements, on peut tous aller chercher un ingrédient, il n'y a qu'à se dire voilà, chacun en prend un. Mais même ça, ça ne marche pas, c'est le dilemme du prisonnier, rien à faire, les gens ne se font pas confiance. C'est ça qui est très drôle dans le jeu.
Mais par contre, le jeu, il est bâti essentiellement là-dessus. Si la communication, si ça prend pas, là, si la mayonnaise prend pas entre les joueurs, le jeu, finalement, il risque d'être un peu plat, quoi. Parce que je pense que c'est un choix de l'auteur, hein. Les mécanismes sont simples, justement, pour permettre cette option-là. Mais par contre, ben voilà, ça se peut qu'avec des groupes de joueurs, ça ne prenne pas, juste parce que ça manque d'un peu de contraintes, ça manque de choses auxquelles on est habitué dans les autres jeux, et que là, il n'y a pas. Et du coup, tu risques d'avoir juste les joueurs se déplacent dans des salles, se poignardent, et puis jusqu'à ce qu'il y en ait un qui ait les 3 ingrédients.
c'est clairement un jeu grand public. Hein. Faut pas non plus s'attendre à un truc vachement mastoc. Enfin, voilà.
Est-ce que le grand public
Je suis pas d'accord avec Fendel là-dessus, parce que nous, on y a joué avec mon groupe de joueurs habituels qui avait été là. C'était le samedi, je crois. Ils sont venus et en fait, ils sont tous. On joue tous ensemble régulièrement et eux, ils ont adoré ce jeu. Donc, je crois que c'est au contraire un jeu qui met assez la passerelle entre les joueurs novices et les gros joueurs. Sauf qu'on n'y joue pas de la même façon.
Ouais, mais pour rebondir sur ce que tu dis, je pense qu'effectivement, c'est soit grand public, soit justement avec des personnes qui éventuellement se connaissent bien, et là, ça peut être marrant, effectivement, d'essayer de faire du guessing en connaissant bien les autres joueurs, ça peut être très marrant. Un autre jeu, on enchaîne avec autre chose?
Allez, moi, je vous parle de Blueprints chez Philosophia, qui est un jeu
bien,
qui...
Ça m'avait l'air pas mal.
Ouais, c'est un jeu qui bosse pas mal. Alors, c'est assez basique en fait comme jeu. Moi, alors, ce qui était bien sur le stand de Philosophia, beaucoup de jeux, leurs jeux, ils étaient en version surdimensionnée. Ils avaient des gros love letters, ils avaient un blueprint où on jouait avec des parce que normalement le matériel était c'est petit, c'est avec des dés assez petits et etc. Et donc là, ils avaient une version avec des grandes cartes et les dés c'était des gros dés en mousse qu'on balançait. Donc ça, c'était agréable. Donc moi, j'ai joué sur cette version-là. Le principe, c'est qu'en fait, les joueurs sont des architectes et ils vont devoir construire des bâtiments. Alors ça leur est imposé en fait. On pioche une carte au hasard au début de la manche. En gros, le bâtiment, il va lui falloir 6 dés pour le construire. Et au début de la manche, on va
des briques, c'est ça?
Ouais, les dés représentent les étages qu'on va construire. Et en fait, donc les dés sont différentes couleurs: blanc, vert, noir et orange. Et on va en lancer 7. À 4 joueurs, je sais plus comment ça marche. On va en lancer 7 au début de la manche sur la table. Ils ont tous une valeur faciale. Et donc le premier joueur va choisir un DD, le placer sur sa construction. Alors les constructions, elles sont derrière un écran, pas que les autres joueurs sachent exactement ce qu'on fait, où on en est. Et ensuite, à la fin de son tour, le joueur il reprend un dé au hasard, un dé qui est pas sur la table, un dé ailleurs dans un sac, il en prend un au hasard et il le lance. Et c'est au joueur suivant d'en choisir un parmi les 7 qui sont sur la table, etc. C'est une notion un petit peu de draft. Et il faut savoir qu'il y a une seule contrainte, c'est que pour poser un dé sur un autre, il faut qu'il ait une valeur égale ou supérieure, tout simplement. À la fin des 6 tours, on va compter les points. Et c'est là que c'est intéressant, c'est qu'en fait, en fonction de la couleur du dé, on compte pas les points de la même manière. Les dés orange, c'est sur le nombre de faces communes avec d'autres dés. Les dés blancs, c'est simplement la valeur faciale, donc un dé blanc qui vaut 6, qui a une valeur de 6, je veux dire, tout le monde le veut. Les dés noirs, c'est en fonction de leur hauteur, puis ils sont hauts. Donc, si tu construis une tour qui est tout en hauteur, par exemple, t'as intérêt à choper des dés noirs parce que ils vont te rapporter beaucoup de points. Et les dés verts, c'est plus il y en a dans la construction, plus ça rapporte de points. On fait ça. Le joueur qui a le plus de points, du coup, il gagne la médaille d'or. Il y a la médaille d'argent, médaille de bronze. Il peut y avoir en plus d'autres cartes qui donnent un bonus supplémentaire. C'est pour augmenter un petit peu l'intérêt du jeu. Moi, j'ai pas joué parce que j'étais avec les enfants, donc on s'est dit on va faire un truc plus simple. Et voilà, et ça se joue sur 3 manches, et c'est celui qui à la fin a récolté le plus de points avec ses coupes qui l'emporte. C'est tout, c'est super simple et ça marche bien. Après, voilà, je sais pas. Je veux dire que ça marche bien, mais je me suis dit qu'il manque un petit truc pour que j'ai envie d'y revenir souvent. En fait, que si je l'achète, est-ce que je vais le sortir si souvent que ça? Je ne pense pas. Mais ça dépend du public, encore une fois, je pense.
Ensuite, moi, je l'ai juste vu, juste de visu, il a un graphisme assez marrant, justement, d'empreinte, je sais pas, de dessin d'architecte, un petit peu.
Les blueprints.
Ouais.
C'est ça qu'on appelle des plans.
Ça.
Ouais,
ça,
les Américains font leurs plans sur un papier bleu et dessinent en blanc. C'est pour ça que ça s'appelle des blueprints.
D'accord.
On le voit dans les films, quand ils étudient les plans pour s'échapper.
Je dois pas regarder les films.
Pas le temps, j'ai les
dans Alien.
Voilà tout ça, je vais m'évader.
Oh là là.
Ok. Un autre jeu.
Ouais, Stéphane voulait nous parler de Perlin Pimpin.
Perlin Pimpin, à pas confondre avec Merlin Pimpin chez Cocktail Game.
Non, c'était Merlin Zinzin, ouais.
Merlin Zinzin, voilà, pas confondre avec Merlin Zinzin chez Cocktail. Donc c'est un petit jeu de cartes. Alors là, effectivement, pour reprendre par exemple par rapport à Pina Pirata, les dessins sont à la fois très jolis, très mignons, et par contre c'est parfaitement lisible. Et pas. Donc c'est un jeu de cartes où on va piocher des princesses. On va essayer d'avoir le maximum de princesses pour arriver, je crois, jusqu'à 20. Hein, c'est ça, Jérémy, 20 points.
40 points. 40 on était
points.
Plutôt ouais. Ouais, bon, ça dépend du nombre de joueurs.
Ça dépend du nombre de joueurs. Bon, bref, chaque princesse vaut plus de points, ce qui est très sympa. C'est un petit côté marché aux esclaves pour enfants qui est vraiment sympa. Et je rigole. Et bon, le thème, après le jeu est assez facile puisqu'on va, on va juste faire des paires en fait, ou des additions en fait, de cartes. On va piocher des cartes, puis il y a des cartes à effet. Il y a le dragon, la potion magique, etc. Tout est thématisé vraiment en conte de fées avec des illustrations très sympas. On y a joué avec les enfants de Jérémy, c'était sympathique. Qu'est-ce que t'en penses toi, Jérémy?
Ouais, en fait, pour la petite histoire, parce que au début, je dis ouais, c'est bon, le jeu il est un peu basique quand même, il est vachement basé sur le hasard de la pioche quand même. Mmh. En fait, il faut savoir que c'est une petite fille, c'est une américaine qui doit avoir 8-10 ans qui a en fait imaginé ce jeu.
Ah, c'est marrant.
Voilà, et donc après, bon, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de l'éditer, mais ça explique en partie pourquoi le mécanisme est si simple. Mais ce qui est sympa, ce qui donne au jeu ce charme, c'est moi je trouve que c'est les graphismes qui sont vraiment superbes, qui vont vraiment dans l'esprit conte de fées, et puis les noms qu'ils ont trouvés aux princesses, aux princes, etc.
Ah oui, alors les princes sont terribles, ils ont tous des espèces de le prince chocolat, enfin il y a des délires complets dans l'illustration et dans les noms, qui est vrai, même les princesses aussi je crois, c'est vraiment très sympa.
Voilà, c'est chez Cocktail Games. Un autre jeu, Fenduel ?
Oui, moi je voulais parler de jeux qui sont chez Libellude. Je voulais parler de Lord of Zenith, donc qui est un jeu de Régis Bonnecet, qui est une refonte au final du jeu qui s'appelle Himalaya, qui était sorti en 2004. Alors moi je ne connaissais pas Himalaya, mais j'étais vraiment bluffé par la mécanique et le graphisme de Himalaya de Lord of the Zenith, qui était vraiment vraiment très sympathique, et les gens s'arrêtaient sur le stand et regardaient, se demandaient si c'était vraiment comment étaient faites les figurines et les qui étaient présentes sur le plateau. Alors le truc le plus amusant, c'est que donc c'était des figurines en carton et des petites représentations en carton. Et en fait, dans la version finale, ça serait des petites figurines en plastique qui prendraient la place. Donc, ça serait encore plus chatoyant, comme dirait quelqu'un que je connais. Donc, c'est un jeu de programmation et de majorité pour 2 à 6 joueurs. Donc, la sortie est prévue pour septembre-octobre. En fait, chaque joueur programme ses 6 prochains déplacements cachés. Et en fait, on va pouvoir donc en gros comme déplacement mais également ses actions. En fait, on peut choisir un chemin qu'on va prendre d'une certaine couleur, ou alors de faire une action. Alors faire une action, ça va être par exemple soit de recruter des soldats, soit de recruter des monstres. Et il y a une mécanique qui est assez sympa où on va prévoir que les autres vont peut-être recruter dans une ville avant nous, parce que plus on recrute tardivement, plus on va avoir des soldats qui vont être forts, Et plus on recrute tôt, malheureusement, moins on va avoir des soldats puissants. La mécanique va donc faire popper, on va dire, va faire apparaître des soldats dans certaines villes et des monstres dans d'autres. Et une fois qu'on aura recruté suffisamment de soldats, on va parcourir la carte pour éliminer les différents monstres. Alors c'est très sympathique. Et donc en combattant un monstre, vous gagnez donc soit des temples, soit des harpes, soit des pièces. Et il faut être majoritaire sur les 3. Il y a un système de décompte qui est assez malin, vraiment très malin. Et donc on retrouve également vraiment les illustrations de l'univers de Seasons. Et avec les monstres de Seasons, et c'est vraiment super agréable. Et il était vraiment déjà super bien fini, super beau, alors qu'il en était vraiment que à ses débuts, parce que c'était la première présentation publique de ce jeu, qui vraiment valait les tours. Et je pense que toutes les personnes autour de la table ont vraiment vraiment apprécié. Moi, je sais que au moins 3 des 5 personnes... Ah non, on n'était que 5, donc c'est peut-être 2 à 5 joueurs. 3 des 5 personnes qui étaient autour de la table ont vraiment apprécié.
Voilà, c'est à peu près tout.
Alors, je l'ai dit, donc septembre-octobre, je pense avant Essen, hein, tout simplement.
Ah ouais, juste pour Essen, d'accord.
Ouais,
pas avant.
Ils essaient de le faire sortir un mois ou 2 mois avant, mais bon, dans la réalité, on sait bien qu'il y aura...
Ouais, parce que visuellement, j'avais l'impression que le jeu était sur le point de sortir, c'est pour ça que...
Ah ouais, mais en fait, pas du tout.
Mais en fait, pas du tout, d'accord.
C'est incroyable. En fait, les figurines sont... On n'avait pas les figurines définitives, mais le reste était quasiment définitif.
C'est marrant parce qu'à une époque, il était question effectivement que c'est Régis Bonassé qui a inventé le jeu au départ, non ? C'est pas, ouais. Pas ça ? Il était question qu'il réédite juste...
Tu m'écoutes, ça fait plaisir.
Non, mais qu'il réédite juste Himalaya, en fait, c'est ça ?
Oui.
Et en fait, ils sont repartis, ils l'ont rethématisé, enfin, ils ont complètement...
Alors, il a changé quelques petits points de règles, j'ai un petit peu potassé les règles de Himalaya en attendant, mais il a simplifié certaines choses et il a rendu, a priori, le plateau plus... avec plus de variabilité et plus de possibilités de, avec des éléments amovibles. Et au final, on ne gagne pas toujours selon les mêmes conditions, selon les parties. Donc ça a l'air vraiment pas mal à ma table. Il y avait des personnes qui avaient déjà testé Himalaya. Ça avait l'air vraiment de leur plaire beaucoup. Ouais, donc c'est vraiment à tester.
C'est presque un autre jeu, en fait.
C'est presque un autre jeu dans l'univers de Seasons et avec certains points qui ont été revus, améliorer pour plus de renouvelabilité du game.
De renouveau à chaque partie. Ouais.
Voilà.
Ok.
Très bien. J'enchaîne avec Looney Quest puisqu'on est sur Libellude. Il faut dire que leur stand effectivement était assez beau. Leurs jeux sont toujours des couleurs assez vives. Et donc Looney Quest, le concept c'est pareil, c'est un jeu qui sort qu'en fin d'année. Je ne sais même pas d'ailleurs l'auteur. C'est le principe de... comment on va dire, du jeu vidéo en fait. On a un petit personnage, alors au centre, il y a un plateau, il y a une fiche carrée avec le personnage qui rentre dans un endroit, typiquement dans un angle, et qui va devoir atteindre une sortie dans un autre angle par exemple. Et puis il est représenté des pièces de monnaie, des bonus à récupérer, et puis des ennemis à éviter. Et chaque joueur a devant lui juste une feuille de papier calque, enfin un papier plutôt, on va dire un peu plus... une sorte de plexiglas fin, voilà, transparent, et un feutre, et il va devoir tracer sur sa feuille le parcours qu'il veut faire à son personnage. Une fois que tous les joueurs ont tracé leur parcours, ils prennent leur feuille, chacun leur tour évidemment, et ils le mettent sur le plateau central, et ils vont regarder où est-ce que du coup leur personnage passe par rapport à l'illustration. S'il passe sur des pièces, il marque des points, s'il gagne un bonus, bah, tant mieux, il pourra l'utiliser plus tard, et par contre s'il passe sur des ennemis, bah, il perd un peu de vie. Voilà, alors après, l'idée c'est que comme ça, dans une partie, on va passer plusieurs planches, et il va y avoir aussi normalement une notion de boss. Alors sur le salon, il n'y avait que 6 planches, je crois, de disponibles. J'en ai discuté avec eux, ils en projettent d'en mettre une quarantaine au moins, parce que je pense que ça, c'est important, même si ça paraît fun comme ça. Au niveau rejouabilité, il faut effectivement qu'il y ait un paquet de planches différentes. Par contre, pour qui aime le jeu vidéo et finir les jeux à 100%, notamment pour les jeux de plateforme, je pense qu'il y a vraiment cet aspect joueur, c'est-à-dire que des fois on va peut-être être tenté d'aller chercher le bonus qui est caché ou de vraiment choper toutes les pièces, quitte à frôler un peu les ennemis. Évidemment, on le fera pas aux premières parties, mais je pense qu'après, c'est là-dessus que le jeu veut gagner son intérêt, c'est que les joueurs vont peut-être essayer d'être perfectionnistes comme on peut l'être des fois dans un jeu vidéo. Je sais pas si vous y avez joué.
Oui, j'y ai joué.
Et
pareil, je suis d'accord avec toi. Pour moi, il n'y a pas. Alors, en fait, il y a un petit peu plus de profondeur que ce que tu as dit. C'est-à-dire que les niveaux vont avoir vraiment. On va avoir des aventures différentes. C'est-à-dire que pour certains niveaux, tu commences à un endroit, tu termines à un autre. Mais pour d'autres, tu dois éliminer des soldats. Donc, tu dois faire des points à différents endroits. En gros, pour chaque niveau, on va vraiment avoir des choses différentes. Par contre, c'est vrai que vraiment le renouvellement, ça va vraiment être pour les fans de jeux vidéo, pour les jeunes, là ça va être parfaitement adéquat. Visuellement, il est très beau, voilà.
Ouais. Mon gamin a adoré. Voilà. Typiquement, mon gamin, il a adoré, il m'a dit ok, on l'achète à la fin de l'année, quoi. Bon, on verra si on l'achète vraiment, mais effectivement, les enfants, eux, ils n'ont pas ce besoin de renouveau du jeu à chaque partie. Ça va très bien de jouer plusieurs fois la même chose, quoi. Donc pour eux, ce sera très bien. Et en plus, c'est un jeu, c'est très bien. Tu dis aux enfants, allez, tenez, prenez la boîte, allez jouer là-bas sur la petite table, et nous, on va faire notre vrai jeu, quoi.
Ça, c'est le rêve de Jérémy, c'est de se débarrasser des gosses facilement, quoi. C'est...
Ouais, bah les jeux de société, ça aide bien. Hein.
Non mais il est c'est vrai que pour les enfants vraiment il est nickel ensuite voilà. C'est pas pour moi en tout cas.
OK, on enchaîne avec les protos. Stéphane, tu as testé Witness chez Istari. Tu nous en dis quelques mots parce que ça pas mal ceux qui ont testé a priori ont tous bien aimé.
Oui, alors Witness chez Istari, c'était le seul petit jeu à l'état de proto sur le petit stand d'Istari. Alors c'est un jeu de transmission, comment on va appeler ça ? C'est un jeu de où il faut essayer de recoller l'information en fait. C'est un jeu qui joue sur le morcellement de l'information. Vous m'entendez ?
Oui.
Ok. Donc, ça se joue de préférence à 4 joueurs pour l'instant. Peut-être qu'ils trouveront une façon de faire des variantes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a chacun devant soi un petit classeur et on a un espèce de brief de départ qui est sur un pitch thématisé sur des aventures de Black et Mortimer, les personnages de BD. Ils ont la licence, a priori, ça sera parti sur ce thème-là. Et on a par exemple un mystère. Par exemple, vous êtes témoin d'un cambriolage ou vous avez sous les yeux un espèce de code. Et en fait, à partir de là, chacun d'entre nous, sans communiquer, a sous ses yeux, en fait, une partie, par exemple, d'un code ou une partie d'un témoignage. Par exemple, j'ai vu un personnage avec un chapeau bleu sortir de l'hôtel par l'escalier de service. Moi, je sais ça. Pendant ce temps-là, l'autre joueur va peut-être savoir que, en fait, j'ai vu la femme de ménage sortir par les cuisines. Et ainsi
de suite. C'est un cluedo.
Non, pas du tout. C'est que on a tous une partie d'une information. Les quatre joueurs, parce que c'est à quatre, ont chacun une partie de cette information. Et en fait, pour résoudre le problème, qui peut être un problème très assez simple. Enfin, bon, j'ai vu il y a un niveau de difficulté qui augmente assez. Ça finit par des trucs où il faut quand même en ayant toute l'information, même si on la lisait tous les quatre ensemble, ça serait déjà compliqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que justement, il faut se la transmettre. Donc, on va faire après une sorte de téléphone arabe. C'est-à-dire que moi, je vais dire à mon voisin ce que je sais. Lui va dire à son voisin ce qu'il sait, et ainsi de suite. Puis on va tous se croiser. Il y a un petit système de pions qu'on déplace pour savoir qui parle à qui, pour ne pas se planter, pour que tout le monde ait une chance d'avoir l'information de chacun des autres. Et à partir de là, on va répondre à une question qui est effectivement qui est le coupable, enfin qui est sorti, qu'est-ce que vous avez vu sur l'image, etc. Alors c'est très très amusant, enfin c'est vrai que c'est assez séduisant. Personnellement, je trouve que on peut encore un petit peu trop se saboter la partie sans le faire exprès. Quand on oublie quelque chose, par exemple, il y a votre voisin de droite qui vous a dit quelque chose, vous avez votre propre indice à lire. Et puis, vous devez donner ces deux informations au joueur d'à côté, enfin, au joueur suivant. Et là, à ce moment-là, vous êtes en train de... Bon, votre information, vous l'avez sous les yeux, mais vous êtes en train de vous embrouiller avec l'information que l'autre vous a dit. Enfin, bon, bref, même sans le faire exprès, bon, on s'embrouille, quoi. Puis, il y a des mystères aussi, il y a des, comme ça, des petits des thèmes où ils ont fait exprès d'embrouiller. Par exemple, à un moment donné, on avait un espèce de jeu de bonneto. Et en fait, chacun avait vu une partie de l'information. Et en fait, il y en avait un qui dit... il disait il n'est pas gauche de sa main droite, tandis que l'autre disait il est plutôt à droite sa main gauche. Enfin bon, c'était fait exprès pour qu'on s'en mêle en plus en le redisant et que l'autre ne comprenne pas. Donc voilà, donc c'est un jeu qui est un espèce de mix entre un Sherlock Holmes, détective conseil express avec des énigmes très simples, mais puis mélangé avec un espèce de téléphone arabe qui nécessite aussi de la mémoire. Donc c'est pas du tout évident, c'est pas facile à doser. Pour l'instant, c'est que 4 joueurs, il faut vraiment être 4 parce que l'information est prévue pour être morcelée sur 4 classeurs entre 4 joueurs. Je suis étonné de voir ce qu'ils vont en faire dans la version finale, comment ça va évoluer, mais en tout cas, c'est effectivement à surveiller de très près.
Ça a l'air amusant.
Très amusant, ça s'appelle Witness, donc témoin quoi, chez History.
Et t'avais un autre jeu, un jeu de guess sur le thème de Lovecraft, c'est quoi ?
Alors ça, c'est très, très étonnant, c'est parce qu'il y avait les éditions sans détour à Cannes, comme les autres années d'ailleurs. Alors vous savez, connaissez tous les éditions sans détour plutôt pour le jeu de rôle, notamment pour leur gamme Cthulhu, qui est très étoffée. Et puis là, en fait, ils avaient un jeu de société, pareil, à l'état de proto très avancé au niveau des illustrations à présenter, qui est fait par un de leurs auteurs de jeux de rôle. Alors on a fait une partie, j'en dirai pas plus, parce que moi, j'ai pas vraiment... tout compris l'intérêt du jeu, mais presque, j'étais un petit peu en dehors. Mais c'est là que c'est marrant parce que j'y ai joué avec deux autres amis qui sont eux des rôlistes et eux ont adoré le jeu. Donc c'est marrant de voir que on n'est pas du tout dans le même. Tu vois, quand on parle de différence entre les joueurs, ont adoré. Moi, j'ai carrément pas percuté, j'ai pas compris. C'est très amusant de voir la différence entre les jeux. Donc, il faut voir une fois que c'est édité. Je pense qu'il faut en reparler à ce moment-là. En tout cas, voilà, c'était la première incursion, en tout cas, de Sans Détour dans le monde du jeu de société, puisque c'est vraiment un jeu de société.
Tu sais ce qu'on dit de Cthulhu, hein ? On dit que Cthulhu, c'est comme le bacon pour les hamburgers. Ça rajoute un truc et puis tu rajoutes ce thème-là et puis tout est parfait.
Comparé à un poulpe au bacon, bravo.
On passe à une autre rubrique ?
Ouais, donc on va enchaîner sur la rubrique suivante qui est le off. Le off, c'est tous les soirs, dès le jeudi soir d'ailleurs, jeudi, vendredi et samedi soir, le off à Cannes, c'est un petit peu en dehors du festival, c'est quand même encadré par le festival. C'est dans une salle à part, une immense salle, la salle Riviera, si je me trompe pas, que se retrouvent les auteurs, les éditeurs et puis tous les joueurs qui veulent venir. Et l'idée... de la base du Hop, c'est de tester des prototypes. Alors les prototypes, ça peut être les auteurs qui veulent déjà roder leur jeu et les présenter ensuite à des éditeurs, mais aussi des éditeurs qui sont en passe de sortir le jeu et qui ont encore besoin de quelques avis avant la sortie finale. Même si maintenant, on l'a vu un petit peu dans la rubrique d'avant, ça commence déjà à se faire aussi en journée sur le salon. Le Hop a encore une part importante là-dessus. Donc Stéphane, toi tu y allais le vendredi ?
Tout à fait, vendredi soir.
Et donc ?
Et donc avec l'association Les Yeux dans les Jeux, j'étais pas tout seul, donc c'était bien sympa, j'ai retrouvé des gens de mon coin, que je salue au passage. Et donc j'ai testé, en une soirée, j'ai pu faire 4 jeux différents.
C'est pas mal.
Alors un petit jeu de familial, intermédiaire, assez marrant, à la limite du party game. C'est un jeu de nommage de pizza, en fait, l'auteur nous a expliqué, voilà. On ne comprend jamais rien au nom des pizzas quand on commande une pizza, donc on va les nommer nous-mêmes. Donc on part avec une main de cartes, avec sur chaque carte un ingrédient, avec des ingrédients classiques de la pizza, le fromage, etc., les anchois, des différents types de fromage, différents types de viande, et puis même des trucs un petit peu plus rigolos. Et puis, en fait, on va commencer un peu comme le jeu du dictionnaire, il va falloir trouver des noms à la pizza par rapport à un thème, par exemple un nom de pays, un nom de je sais pas, d'acteur, enfin de film, des choses comme ça. Puis à partir des ingrédients, il faut que les autres arrivent en votant, avec un système de vote, à retrouver votre pizza. Donc, bon, évidemment, si vous faites une pizza française, vous allez commencer avec des fromages bien français, peut-être avec des jeux de mouches, je ne sais pas, etc. Essayer de trouver des champignons de Paris, parce que ça fait penser Paris, donc Paris, la France. Et, mais le problème, c'est que dès qu'il y en a un qui a trouvé comment il faisait sa pizza à partir de sa main de carte, alors il faut mettre au minimum, je crois, 2 cartes, 3 cartes, en fait, de sa main. Dès qu'il y en a un qui a trouvé, il est le premier à écrire. Donc, forcément, les choses les plus évidentes sont tout de suite prises. Et puis après, il faut se creuser un peu plus la tête. Donc c'est très amusant. Le vote, des fois, relève de sacrées surprises, parce qu'évidemment, ce qui semble évident pour les uns n'est pas l'autre. C'est un jeu qui marche étonnamment bien. C'est vraiment, j'étais très étonné. Ça paraît très con, et en fait, c'est très fandard. Assez subtil, même des fois. Parce qu'il y a des ingrédients, il y a vraiment beaucoup de choix dans les ingrédients, dans les cartes ingrédients. C'est pas du tout, ça se répète pas du tout. Et puis il a trouvé aussi des idées de thèmes complètement délirants. Donc au début, on se met sur un thème assez simple pour faire le première partie, premier tour. Et puis après, on commence à avoir des thèmes de plus en plus abstraits qui s'éloignent de l'alimentation. Et là, ça devient complètement délirant. Et je vous épargne les jeux de mots foireux qu'on a fait avec les moules ou avec le chorizo. Mais vraiment, c'était très drôle, très bon. Très très bon jeu. Alors, je ne sais pas du tout s'il sera édité un jour. C'est vraiment le proto, quoi. Je ne sais même pas comment il s'appelle le jeu. Il faudrait que je pose la question. Voilà. Bon, je connais pas le nom du jeu, mais c'était très sympathique. Autre jeu aussi, un pur party game qui s'appelle Embrouilla Mini. Alors c'est sur le point de vue de départ, on se dit c'est pas original, c'est un time's up, puisque en fait il faut faire deviner un mot. Soit en mimant, soit en parlant, et puis soit en dessinant. Donc là, vous dites bof, rien d'original. Sauf qu'en fait, on fait ça en même temps que quelqu'un d'autre. Donc il y a deux joueurs qui essayent de faire deviner quelque chose à deux autres joueurs, et donc ça s'embrouille.
Alors, vous la même dire, chose comme... ou des choses différentes ?
Des choses différentes, donc je ne te raconte pas la cacophonie quand on parle. Et alors, en mime, on est carrément attaché l'un à l'autre, c'est-à-dire qu'on est la main droite attachée à la main droite de l'autre joueur, pareil avec l'autre main, c'est à la limite du bondage vivant. C'est entre le spectacle de mime et le shibaru japonais. Donc c'est assez
ça va plaire à certains.
Je ne sais pas si c'est vraiment très safe pour les gens qui ont des problèmes d'articulation ou de luxation. Je ne sais pas, il faut faire attention peut-être. Et puis alors pour le dessin, c'est encore plus fort puisqu'on est sur une plaque transparente verticale qui tient au milieu de la table et chacun dessine d'à côté de la plaque. Donc les dessins forcément sont à moitié, se recouvrent l'un l'autre de chaque côté de la plaque avec le marqueur. Enfin, chacun a son marqueur, mais sur le verso de la même plaque, chacun sur un côté d'une plaque transparente. Vous imaginez comment c'est à moitié illisible au bout d'à peine 2 secondes. Quoi. Voilà. Donc Oui.
Non, mais c'est une idée complètement marrante. Hein, ensuite, à éditer, est-ce que c'est faisable ce genre de truc?
Voilà, je pense c'est un peu le problème, c'est jusqu'à quel point c'est éditable, je sais pas. Bon, en tout cas, on y a joué avec plaisir. C'était bon, en plus parce que c'était vendredi soir, parce qu'on avait envie de délirer et puisqu'on était fatigué. Par contre, on a passé, tu vois, le jeu à quelqu'un d'autre pendant que l'auteur s'absentait et en fait, on a expliqué. C'est très marrant parce que c'est un autre groupe où ça n'a pas du tout marché. Ils ne sont pas pris au jeu, enfin, ils sont partis tout de suite. Donc, comme quoi, c'est une question aussi d'être dans l'ambiance, d'être dans l'envie d'un petit peu de déconner, de s'amuser. Et, voilà. Donc, effectivement, peut-être difficile à éditer, peut-être pas assez différent des autres jeux pour ça.
De toute façon, pour moi, les party games, si tu n'es pas dans l'ambiance, bah, tu n'es pas dans l'ambiance, quoi, je veux dire.
Voilà. Ouais, voilà. Puis, il y a peut-être la force d'un vrai party game, c'est peut-être justement de créer l'ambiance, même quand elle n'est pas là.
Pas faux. Autre jeu ?
Ouais, autre jeu, La danse des hippopotames. C'était juste un petit proto très bien illustré avec, je crois, des extraits du dessin animé. Il y a une danse des hippopotames dans un vieux Disney, je crois. Des hippopotames en tutu qui font une petite chorégraphie. Donc, c'était des dessins comme ça. En fait, c'est un jeu de rapidité. On a une couleur, on a une pose de l'hippopotame qui fait une figure de danse. Et puis, on doit retrouver le bon disque devant soi qui représente cette hippo-là. Bon, c'est pas transcendant, c'est encore un jeu d'observation rapidité comme il en existe beaucoup. Bon, je sais pas, moi j'étais pas dans le bain, moi honnêtement c'était moi qui n'étais pas dans l'ambiance. J'ai complètement regardé les autres jouer et j'arrivais pas à rentrer dedans.
Jérémy, toi aussi tu as vu des jeux au off?
Ouais, mais je voulais laisser Stéphane finir. Non, t'en as eu, il en reste un, Stéphane, si, et après j'enchaînerai avec mes essais.
Ouais. Et après, j'ai aussi joué à un jeu, un petit proto. Alors, c'est vraiment le pur proto, parce que l'auteur ne s'amuse vraiment pas à faire des beaux dessins. J'ai retrouvé qui c'était après. C'est Numéro Bis sur Trick Track, quelqu'un qui s'appelle Florent, et qui avait plusieurs jeux et qui proposait qu'on a essayé un petit jeu qui s'appelle Galion, qui est un jeu original, puisqu'on est, des marchands. On a une main de cartes qui permet d'enchérir sur des comptoirs, en fait. Et en fait, tout ce qu'on sait comme information de ces comptoirs, c'est qu'il y a quatre symboles dessus, mais ces quatre symboles, ils sont à l'intérieur d'un petit bout de papier enroulé, comme un petit ruban, comme un disque dont on aurait uniquement écrit sur l'intérieur. Donc chacun s'est posé au milieu de la table. Chacun ne voit en fait que l'intérieur du disque de son point de vue. Donc en gros, on a une chance de voir un ou deux symboles à tout casser, puisqu'il y en a, quatre ou quatre points cardinaux. Et donc on a une information comme ça partielle, mais à nous tous, une fois de plus, on sait exactement ce qu'il y a sur le disque. Et en fait, on a tous un petit bateau qui représente les mêmes symboles. Une partie des mêmes symboles, c'est jamais les mêmes évidemment, et puis on n'a jamais tous les symboles, et donc en fait il y a un petit jeu d'enchères comme ça. Est-ce que ça m'intéresse ce comptoir là ou cet autre là, et sur, je parie avec des cartes, et en fait effectivement tu paries sur quelque chose sur lequel tu vois un ou deux symboles de la même valeur que sur ton bateau, et tu regardes un peu ce que font les autres pour essayer de comprendre par rapport au bateau qui est devant eux, si eux aussi ils ont le même symbole, ou si eux ils voient autre chose qui correspond à leur bateau, pourquoi ils enchérissent sur le même bateau que toi alors qu'ils voient forcément pas la même chose. Bon, il y a un petit jeu qui est sympa comme ça. Par contre, le reste, la mécanique est assez froide. C'est juste des cartes avec des numéros. Enfin, ça manque un peu de fun et de je dirais un petit peu d'autre chose que du calculatoire, quoi. Surtout qu'il y a quand même une bonne part de bluff. Alors, je sais pas, c'est pas encore tout à fait au point. C'est assez prometteur. J'ai bien aimé le mécanisme. C'était rigolo. Parce que même avec ce qui était révélateur, c'est que même avec des bouts de papier et des pauvres cartes de 3 cm découpées à la hâte, sans aucun effort graphique, ça fonctionnait déjà.
Jérémy, est-ce que tu as pu tester des jeux ?
Alors, moi j'ai fait un saut le samedi soir, mais j'ai fait un petit tour de 1h30, 2h sur place, discuter avec des gens, évidemment. Ces festivals, c'est toujours l'occasion de rencontrer plein de gens. Mais j'ai pas testé directement des jeux, j'en ai vu quand même quelques-uns. J'ai noté, alors c'est des trucs beaucoup plus, on va dire, plus connus, et des choses qui devraient être qui seront éditées de toute façon. Donc, je suis moi dans les petits protos comme a pu tester Stéphane. J'ai notamment, alors j'ai vu un proto qui est signé chez Edge, mais qui a besoin de la licence, sinon il ne sortira jamais. C'est Worms. Alors vous connaissez Worms, le jeu de Team 17 qui est sorti sur PC et qui a fait le tour des consoles et autres. Je pense que tous les supports numériques ont le droit à une version de Worms. Et l'auteur, Fred Laloutre en l'occurrence, a vraiment réussi, j'ai trouvé, à reproduire toutes les idées de Worms sont là, sont dans son jeu. Donc on monte un plateau avec des collines et choses comme ça. Pour l'instant, c'est juste c'est modulaire avec des morceaux de mousse. Et en fait, il y a même pour la notion du tir, la notion du vent, etc. Il a super bien réfléchi au système, puisque tout a été drôle dans le jeu de Worms. C'était justement comment on allait doser son tir en appuyant sur la touche espace. Et là, c'est en fait un jeu de pitch net. Il va falloir réussir à tirer le palet correctement dans la cible. Évidemment, si on a raté, dans ces cas-là, on va lancer les dés pour savoir où est-ce que ça atterrit complètement au hasard ailleurs sur le plateau. On retrouve la notion des mines, des choses comme ça. Vraiment, j'ai trouvé que les idées sont bonnes et on a une vraie adaptation. On a l'impression d'avoir le Worms jeu vidéo sur plateau. Et je pense que Edge, c'est l'éditeur parfait parce que c'est vraiment dans ce type de gamme que je trouve que la gamme de Edge est parfaite par rapport pour recevoir à Worms. Petit truc marrant, c'est que l'auteur, en plus, il a une petite enceinte Bluetooth, et donc de temps en temps, en fonction de ce qui se passait dans la partie, il envoyait en plus les petits tones des Worms tels qu'on les connaît dans le jeu vidéo. Ça rajoutait vraiment à l'ambiance, c'était vraiment super, super sympa. Voilà. Par contre, est-ce que ça sortira? Difficile à dire, puisqu'actuellement, il faut négocier la licence. Mais s'il n'a pas licence, c'est vraiment dommage, parce que je pense qu'aucun jeu ne pourra aussi bien rendre hommage à ce jeu vidéo. Après, j'ai vu Essen The Game. Donc, c'est un jeu de... Alors, j'ai mangé un des auteurs, mais l'autre, c'est Étienne Espremann, qui est aussi auteur de Bruxelles, qui a remporté un prix à Cannes. C'est pas du tout un jeu de gestion aussi compliqué, aussi... pour joueurs aguerris comme Bruxelles, l'idée c'est plutôt de reproduire l'ambiance du salon d'Essen, donc c'est-à-dire avec des achats, il faut gérer la foule, alors sur le plateau il va falloir aller porter ses achats à la voiture, retirer du cash parce qu'on n'en a plus, enfin tous ces aspects-là qu'on connaît tous quand on a fait le salon d'Essen au moins une fois, qui sont portés sur un plateau, alors après avec des notions de points de victoire un petit peu qui vont bouger, etc. Là, ce que je trouve d'intéressant, là où le challenge n'était pas facile, c'est qu'ils ont réussi. Donc dans ce jeu-là, il y aura, en fait, ils ont reproduit le salon de 2013, le Spiel 13. Avec, du coup, ils ont choisi 60 éditeurs et 60 jeux phares, et ils ont négocié avec chacun des éditeurs pour avoir les droits de les mettre dedans. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment aller acheter le Gueule Noire par exemple, qui est sorti au Spiel 13. On peut aller acheter son Rosenboot sur le stand Splotter. Voilà, ça, ce côté-là est vraiment sympa. Il va sortir en auto-édition entre guillemets. Ils font ça. Il faut ça à compte, parce que forcément ils pouvaient pas, du fait qu'il y a 60 autres éditeurs dans la boîte, au moins disons avec les noms et tout. Ils peuvent pas aller chez un éditeur pour éditer le jeu, donc ils le font, ils sont lancés eux-mêmes pour le faire. Objectif évidemment, c'est qu'ils sortent pour le salon en octobre. Voilà. Après, moi, je ne suis pas sûr que je l'achèterai parce que ça reste. Enfin, je sais pas. J'ai peur que les mécanismes soient pas assez intéressants. Maintenant, le jeu tourne. Il y a quand même plein de bonnes idées, la manière de remplir le caddie et tout, qui fait que du coup on a moins d'action à chaque tour, et donc forcément on va être tenté de retourner à la voiture.
C'est sympa comme thème, en tout cas c'est original, et puis ça parle au joueur de toute façon.
Ouais, c'est vrai que alors c'est un truc, chaque fois qu'on va au salon d'Essen, c'est toujours un truc qu'on se dit, tout le monde se dit tout le temps, ah il faudrait faire un jeu dessus, parce que on galère tout le temps, on arrive tous avec sa liste, on n'arrive jamais à tout voir, il faut composer avec la foule, il faut manger, il faut machin. Et effectivement, on retrouve dans ce jeu, on retrouve tous ces aspects là du salon.
Il y avait bien eu Board Game Geek, le jeu aussi.
Ouais, voilà, c'est des jeux qui surfent un peu sur ça, mais c'est pas des jeux. Enfin, après, les gens vont l'acheter, je pense, plus pour ce côté-là, ce côté sympa de retrouver un peu, finalement, ce qui fait le salon. Mais ils l'achèteront pas pour la richesse des mécanismes ou tout ça. Donc, et moi, c'est sans doute pour ça que je ne l'achèterai pas, justement, en fait.
Est-ce que c'est un jeu en plus qui peut parler à des gens qui n'ont jamais été à Essen ou jamais fait ce genre de salon?
Non, je pense pas. Non, puis qu'est-ce que tu veux qu'ils aillent acheter un Rosenboot, quoi. Ça leur parlera pas, c'est sûr.
Mais qui irait acheter un Rosenboot?
J'espère que vous avez acheté le vôtre. Mais
pardon.
Mais non. Mais donc donc je sais pas. Non, je pensais vraiment un truc pour un joueur qui aime ça, etc. Mais le jeu rencontrera nécessairement son public. C'est pas un souci. Hein. Dans ce que j'ai vu, il y a rien qui est déconnant. Ils ont bien dit, hein, ils ont travaillé sur plein de versions différentes. Enfin, ils ont finalisé la règle pour eux. Ils sont contents parce qu'ils expliquent la règle. Après, la partie se déroule en une heure et les joueurs, au off, hein, on parle, donc c'est censé encore être proto, mais les joueurs n'ont plus de questions une fois que la règle est expliquée, etc. Donc les auteurs sont contents, ils disent, ok, là, on est bon, on a une version qui marche, quoi. Il ne reste plus qu'à passer maintenant au stade. On finalise les illustrations, on finalise tout ça pour qu'ils partent à l'impression. En juin, en gros, fin juin, je crois même qu'il aura un financement participatif. Ils essayent de regarder cette solution-là pour l'instant. Voilà, et puis juste à côté, en fait, il y avait une grande table C'est un proto, entre guillemets, mais on était sur du surdimensionné. C'est le Mare Nostrum à venir bientôt chez Asynchron, donc avec Serge Laget aux commandes de la partie. Et alors c'était sympa parce que c'était vraiment une version super belle, surdimensionnée, avec des quand tu construis les temples, etc. C'est carrément des belles figurines à l'effigie de temples, etc. Alors on a commencé à discuter avec Serge Laget sur ce sujet-là. En fait, il expliquait que c'était du matériel qu'il avait déjà d'il y a 10 ans quand il faisait les championnats de France de Mare Nostrum. Et ensuite, on a discuté donc un petit peu comment la genèse, donc évidemment Asynchron, c'est pour compléter leur gamme épopée qu'ils ont commencé avec Fief, qu'ils ont ensuite étoffé avec l'aéropostale l'année dernière. Et donc, il leur manquait une thématique un peu antiquité dans cette collection-là. Et donc, c'est tout naturellement que Bruno Catala a suggéré à Asynchron de se pencher sur une réédition de Mare Nostrum. Mare Nostrum qui avait quand même connu un certain succès et que je sais que certains joueurs cherchent encore, donc une bonne nouvelle pour eux. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'en plus, Serge Laget a beaucoup retravaillé le jeu pour corriger les défauts qui étaient reprochés à Mare Nostrum à l'époque et pour que le jeu il ait un intérêt, un réel intérêt, quel que soit le nombre de joueurs. Ce qui n'était un peu pas le cas de la première version. Donc voilà, donc on est un petit peu finalement comme pour Lord of Xidith, qui n'est pas qu'une simple réédition d'Himalaya. Voilà, c'est bien la tendance, c'est bien d'aller chercher des jeux qui ont marché il y a 10 ans et de se dire je les ressors mais je les retravaille avant. Ça c'est vraiment sympa. Et donc du coup voilà, Mare Nostrum, on aura cette assurance là que c'est pas juste une simple réédition.
Ouais, c'est bien, ça permet d'enlever éventuellement des lourdeurs ou des mécaniques qui à l'époque étaient super
ouais, ou des déséquilibres en fait
à la mode, mais ouais, des déséquilibres absolument. On a beaucoup plus de recul et on peut vraiment perfectionner.
Ouais, voilà, c'est ça.
Les jeux comme ça.
Et ouais, parce que quand t'es auteur de jeu, enfin à un moment ou un autre, auteur, éditeur, quand t'as un jeu, il faut décider, il faut dire, t'as toujours des nouvelles idées, tu veux toujours tester des nouveaux trucs et tout, mais au bout d'un moment, tu dis, bon, ok, là, on l'arrête et on le sort le jeu. Et tu peux avoir loupé des trucs, effectivement, et du coup, après, si quelques années après, on te propose de faire une V2, t'as toujours plein de nouvelles idées intégrées, et on le voit encore ici. Et ce qui était appréciable, c'est le fait que tu avais une table surdimensionnée pour un proto. C'était vraiment. Parce que je pense qu'ils avaient dû mettre ensemble 4 tables, je pense, pour pouvoir mettre le plateau du Mare Nostrum.
Ça.
Ah ouais.
Ah ouais, il était vraiment très grand. J'ai pas fait de photo, en fait, je regrette, mais vraiment, c'était un méga plateau de Mare Nostrum. Très.
Ils ont pas pris des bateaux, justement, qu'il y avait dans le port de Cannes pour.
Non, quand même pas.
Ça s'appelle Mare Nostrum, pas Yacht.
Non, ça collait pas au thème.
Yacht le.
Des Yachtoum, parce que.
Le jeu.
Yachtoum Kanoum.
C'est la fin
de l'émission.
Voilà, ouais, c'est la fin de notre émission. Ouais, on a une heure d'enregistrement, c'est pas mal. On voulait faire 30 minutes, on a fait une heure, c'est pas mal. C'est normal, on est dans le format. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant que je clôture tout ça?
Ouais, non, je voulais juste te dire, ouais, non, c'est vraiment sympa si vous n'êtes jamais allé à Cannes, pour ceux qui écoutent, qui hésitent à faire le voyage. Moi, je trouve que c'est quand même un festival très sympathique où les gens sont abordables. Et puis, en fait, j'étais très surpris, moi, puisque je suis resté une nuit. D'habitude, je ne reste pas parce que j'habite pas loin. C'est qu'on trouve des hébergements en plus pas chers parce que c'est encore assez hors saison, en fait, par rapport à la capacité d'accueil de Cannes. Donc, on trouve quand même des chambres d'hôtel à pas cher. Voilà. Donc ça vaut le déplacement. N'hésitez pas, si vous n'avez jamais fait le déplacement, allez-y, c'est quand même très sympa, à la fois pour le festival, pour le off et pour la facilité de rencontrer des gens.
Ouais, et puis ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y avait un super soleil dehors et que ça vaut le coup à midi de sortir aller manger dehors.
Le soleil, je l'ai toute l'année. Donc,
c'est très agréable.
Ouais, mais d'accord, mais tout le monde n'est pas dans le sud. Et...
Le soleil est prêt.
Pour nous qui habitons un peu plus au nord, on apprécie le ciel bleu et le soleil effectivement.
Est prêt de
voir beaucoup plus au nord. Cet homme ne se drogue pas, rassurez-vous.
Bien.
C'est la fin de notre émission. Que vous ayez aimé notre émission ou non, faites-le nous savoir en laissant un commentaire sur le site podcast.proxy-jeu.fr où vous y trouverez toutes les informations sur les sujets que nous avons abordés ce soir. Et on se retrouve dans le 54 en attendant.
Jouez bien.